Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire, affaire Norbert Zongo, il faudra attendre au moins 2 semaines pour être situé sur l'extradition de François Compaoré. La décision du Conseil d'État français est attendue en tout cas avant la fin de ce mois de juillet. Des Ouagalais demandent au ministre de la Santé, Charles-Magne Ouédraogo, de prendre des sanctions contre les médecins qui n'étaient pas à leur poste lors de sa visite inopinée dimanche dans les hôpitaux à Kudougou et à Réo. Vous entendrez des réactions. À une semaine de la fête de Tabaski, la mairie de Ouagadougou rappelle aux commerçants que la vente de volaille et de bétail est interdite dans les rues de la capitale. Et puis à l'occasion de l'élection du nouveau président de l'Union nationale des supporters aux étalons prévu le 17 juillet prochain, nous recevons comme invité le candidat Ousseini Touguma. Il nous dévoilera en fin d'édition les grands axes de son programme. Justice pour commencer avec cette question. Affaire Norbert Zongo, François Compaoré, sera-t-il extradé ou pas? On ne le saura pas avant au moins 2 semaines. Inculpé d'incitation à assassinat du journaliste Norbert Zongo fin 1998, François Compaoré, le frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, multiplie les recours devant les juridictions françaises afin d'empêcher tout retour. Hier lundi, le Conseil d'État français à Paris s'est donné au moins 2 semaines pour rendre sa décision sur l'annulation ou non du décret d'extradition. À la sortie de l'audience, l'un des avocats de François Compaoré, maître Pierre-Olivier Sûr, a déclaré que si François Compaoré est extradé au Burkina Faso, il sera tué en cellule. Si le décret d'extradition n'est pas annulé, les avocats de François Compaoré envisagent saisir en urgence la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'il soit demandé au gouvernement français de suspendre l'extradition. Après la justice, la sécurité. Vous le savez, la France a annoncé le retrait de la force Barkhane au Sahel, mais reste pour lutter contre le terrorisme sous un autre modèle à travers la force Takuba. Pour Sédic Abba, journaliste, écrivain, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel, ce n'est pas surprenant que la France ait repensé sa coopération au vu des résultats peu satisfaisants obtenus.
Dès le départ, la mission était quasiment impossible parce que cette partie du territoire, c'est environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Et 8 ans après, aujourd'hui, on constate avec beaucoup d'objectivité que l'opération Barkhane n'a pas atteint ses objectifs. On peut même considérer que la situation au Sahel s'est presque dégradée depuis le début de Barkhane à aujourd'hui. Donc on peut estimer, sans jeter la pierre sur l'armée française ou sur l'ambition de la France, que Barkhane n'a pas donné en tout cas les résultats que les pays du Sahel et que la France elle-même entendait. Donc ce n'est pas surprenant que la France elle-même ait décidé de repenser Barkhane pour lui assurer une plus grande efficacité.
Sédic Abba, journaliste, écrivain, spécialiste des mouvements djihadistes au Sahel, sera notre invité mercredi. Interview à suivre demain donc dans nos différentes éditions. Visite inopinée du ministre de la Santé la semaine dernière dans les centres de santé à Kudougou et à Réo. Le constat est amer, absence de médecins. Les populations à travers l'émission Ça nous concerne s'insurgent. Écoutez quelques réactions.
Mais pour moi, rentrer dans son page Facebook pour pouvoir parler de ça, moi j'aimerais qu'il n'a qu'à faire une conférence de presse, de montrer que vraiment il est déçu, que des sanctions seront prises pour condamner et pour que ces gens-là puissent répondre.
Mais moi, j'attaque les syndicats. Parce que les syndicats, quand c'est un problème d'argent, ils se plaignent. Quand les gens ne travaillent pas, ils font rien. Par exemple, les médecins qui ne veulent pas travailler là. Le syndicat même doit agir. C'est ce qu'a dit mon frère là. Il y a des gens qui ont des diplômes qui sont là et ne travaillent pas. Il faut qu'on tape. Celui qui ne veut pas travailler n'a qu'à aller rester dans son village et puis permettre aux gens de travailler. Mais le ministre n'a qu'à tourner. Mais il faut que des sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, ce n'est pas la peine. Il dit qu'il était à Koudougou et à Réau, il n'y avait pas de médecins dans les services. Mais ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on laisse la vie des pauvres populations entre les mains des jeunes infirmiers qui sont parfois sans expérience. Et ces derniers, bon, ils manipulent la vie des gens comme ils veulent. Et facilement, les gens passent des vies à trépas et on dira après que c'est Dieu qui a fait. Et non. Parce que si aujourd'hui, un médecin qui devrait être là, il n'est pas présent à son poste, moi, je pense que ce dernier mérite même la révocation.
Si on disait même que c'est le petit gens-là qui n'étaient pas là-bas, c'est-à-dire le cadre moyen, comme on a cité infirmier et puis sa femme-là qui n'était pas là, on va dire « Ah, bon, c'est le manque de moyens, mais tout le monde sait que les médecins, quand même, ils s'en sortent. » Donc, pardon, faites bien. Ce monsieur-là, moi, je vais l'appeler même Yalardo Ouédraogo, qui est revenu. Ça, c'est pas Charlemagne Ouédraogo, c'est Yalardo Ouédraogo même qui est revenu.
À l'instant, des réactions sur la visite inopinée du ministre de la Santé la semaine dernière dans les centres de santé à Koudougou et à Réau. Et puisqu'on parle de santé, place à la situation sanitaire du pays. À la date du 11 juillet, le Burkina a enregistré 3 nouveaux cas confirmés de COVID-19, 5 guérisons et 0 décès. 28 personnes sont encore sous traitement. Toujours en bref, la mairie de Ouagadougou rappelle que la vente de bétail et de volailles en dehors des marchés est interdite dans la capitale burkinabé, annonce dans un communiqué qui intervient à une semaine de la fête de Tabaski prévue le 20 juillet prochain. Tout animal ou volaille en vente dans la rue ou en dehors des endroits autorisés comme les marchés sera systématiquement confisqué par les services compétents de la commune de Ouagadougou et vendu aux enchères publiques ou remis aux services publics en charge des œuvres sociales, ajoute le communiqué de la mairie de Ouaga. Suite de l'actualité nationale, l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina en colère contre leur ministère de tutelle, notamment celui de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville. La cause, la réforme sur la loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso, jugée inappropriée. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui à Ouagadougou au cours d'une conférence de presse. Abdoul Fattah, Abdoulkader Konaté.
Nous marquons notre total désaccord par rapport à cet atelier et par rapport à ce projet de loi que nous qualifions de projet de loi suicidaire.
La fameuse loi 057, la loi qualifiée de suicidaire, la loi qui divise. Tout serait parti d'un atelier de relecture de la dite loi 057 portant promotion immobilière au Burkina Faso du 31 mai au 5 juin dernier, entrepris par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Villes. Conviés, les promoteurs immobiliers se mettront à l'évidence selon leur dit que l'avant-projet de loi tel envisagé est inopportun et risque de causer la fermeture prochaine des sociétés immobilières. Roger Ninkema, président de l'Association des promoteurs immobiliers.
C'est l'État seul, à travers cet émargement, tel que nous avons cité celui-ci, son acteur et le ministère de l'Urbanisme, dans le crochet, qui seront habilités à mobiliser les terres des propriétaires terriens ou bien les terres du domaine national. Les propriétaires terriens, lorsqu'ils ne disposeront pas de titres permanents, des titres fonciers, des APFR, ne pourront plus céder leurs terres à un promoteur immobilier.
Nonobstant cela, les conférenciers appellent le gouvernement à prendre ses responsabilités afin de prêter une oreille attentive à leurs préoccupations.
Nous voulons tout simplement que nos différents projets qui dorment dans les tiroirs, qu'on puisse faire l'inventaire de ces projets, qu'on puisse les traiter en bonne et due forme. Il y a un certain temps où le gouvernement a validé ce qu'on appelle le ciment des lieux d'aménagement du territoire, le SIDO. Et alors que nous avons des projets qui ont été déposés avant l'adoption de cet outil. Et nous pensons que nos différents projets qui sont déposés ne doivent pas être soumis au croisement de ce outil-là. Également, nous avons exprimé par voie de courrier demandant la levée de la suspension du traitement de nos dossiers.
L'État burkinabé veut-il voter une loi en catimini pour exclure définitivement les sociétés immobilières des questions foncières? La question demeure posée.
Et puis, pour permettre aux acteurs du secteur privé de bien se préparer pour profiter des avantages de la zone de libre-échange continentale, ZLECAF, Ouagadougou abrite depuis hier et ce jusqu'au 15 juillet prochain un cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé 2021, le point de la cérémonie d'ouverture avec Régis Bonny.
L'accord de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique, ZLECAF, défis et opportunités pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. C'est sous ce thème que se tient le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé, CODESP 2021. Plus qu'un thème, cela constitue une forte interpellation pour le monde des affaires et les pouvoirs publics burkinabés. Tout en saluant la dynamique de dialogue État-secteur privé, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat affirme que le plus important est le côté permanent du dialogue. Haruna Kabore.
Nous sommes donc dans l'ère de la zone de libre-échange continentale et il faut bien s'armer, se préparer pour être compétitif, pour proposer des produits de qualité, pour profiter donc de ce vaste marché. Nous avons déjà une stratégie nationale ZLECAF et il est bon que les discussions ici permettent au secteur privé de mieux se préparer pour profiter de ce marché parce que si nous ne le faisons pas, nous allons être à la traîne.
Trouver des mécanismes favorables pour permettre la dynamisation du secteur privé, telle est l'une des raisons du CODESP, laisse entendre Simone Zundi, président de la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de transformation du Burkina Faso.
Le secteur privé, comme on le dit, c'est le moteur de la croissance, le moteur du développement. Et il faut nécessairement comprendre les points particuliers de blocage pour pouvoir apporter les amendements nécessaires et pouvoir améliorer la rentabilité de l'activité.
Le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé est à sa quatrième année d'existence. Il se tient jusqu'au 15 juillet 2021. En rappel, le présent cadre de concertation État-secteur privé a été instauré depuis octobre 2018.
L'actualité hors des frontières du Burkina Faso, en Afrique du Sud, des fusillades au Cap ont occasionné la mort de 3 personnes. 6 autres ont été blessées dans des fusillades survenues dans la province du Cap Oriental au sud-ouest de l'Afrique du Sud, a indiqué ce mardi la police. Un récent rapport du groupe de sondage mondial Gallup a classé l'Afrique du Sud 5e pays le plus dangereux au monde. En moyenne, le pays de Nelson Mandela enregistre 58,4 meurtres par jour, soit un taux de 35,8 meurtres pour 100 000 personnes selon le dernier recensement démographique. Et puis le pape François a rendu ce mardi un hommage à l'influent cardinal Laurent Monsengwo, décédé dimanche, évoquant le courage et la contribution significative d'un homme très impliqué dans la vie politique et sociale de la République démocratique du Congo.
La revue de presse.
La revue de presse de ce mardi est présentée par Asma Odao.
Sur la procédure d'extradition de François Compaoré, l'observateur Palga écrit « François Compaoré devant le Conseil d'État français, c'est 2 questions qui pèseront dans la balance pour le journal. C'est un retour à la case prétoire pour François Compaoré, le journal qui écrit. En effet, hier, lundi 12 juillet 2021, le frère cadet de l'ex-président Blaise Compaoré était devant le Conseil d'État à Paris. Cette audience consistait essentiellement à répondre à 2 questions. La demande d'extradition a-t-elle un but politique ? Le prévenu va-t-il bénéficier d'une procédure équitable devant les juridictions burkinabées ? À ces 2 interrogations vitales, le rapporteur public a déclaré « La confiance entre États doit prévaloir malgré les raisons d'hésiter » avant de conclure que la demande de l'inculpé doit être rejetée. Pour le journal, pas besoin donc d'être sorti d'une école de droit pour comprendre que le rapporteur, de façon implicite, requiert l'application du décret d'extradition du frère cadet de Blaise Compaoré. Et ses conseils, maître François-Henri Briard et Pierre-Olivier Sûr, cités par le journal, « Cette affaire est bien politique ». Vous devez annuler le décret. Il y a des pays pour lesquels les garanties diplomatiques ne fonctionnent pas. Ce ne sont que des garanties de parchemin. Une extradition vers le Burkina serait pour François Compaoré une extradition vers le chaos, l'enfer et la mort. Si François Compaoré est extradé, il sera tué en cellule, renchérit maître Pierre-Olivier. Le conseil dispose de 2 semaines pour rendre sa décision finale, note le confrère qui conclut. Affaire donc à suivre. Sur la même information, aujourd'hui au Faso écrit, affaire Norbert Zongo, en attendant le Conseil d'État, les avocats redoutent le pire en cas d'extradition. Dernier échelon dans la procédure, note le journal, mais à présent et en dépit des recours à sa disposition, François Compaoré est de plus en plus proche d'une extradition vers le Burkina Faso. Dans les tréfonds de son âme et son fort intérieur, c'est un homme condamné à compter les jours. Depuis le déclenchement de la procédure d'extradition, et comme l'avait prédit Norbert Zongo dans une de ses sorties tôt ou tard, il devra se résoudre à répondre devant la justice dans ce dossier, écrit le journal.
Et c'est ici que prend fin ce journal réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Chalda. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Ousseni Tougma, vous êtes vice-président depuis 2010, ça fait 11 ans aujourd'hui. Vous pensez que le moment était venu pour vous de succéder à Blaise Amoueko qui a décidé de ne pas rebeloter?
C'est pas à moi de le dire, parce que 10 ans, c'est pas 10 jours. Ça fait 10 ans que je suis vice-président. J'ai beaucoup appris ce qui se passait dedans, je savais bien ce qui se passait dedans. Donc, je peux dire que je suis prêt pour aller au destiné de l'IMCE.
Et votre passion pour le sport en général, ça a débuté quand?
Dès mon bas âge, parce que moi, je suis dans le sport il y a très longtemps, depuis les temps des sapes olympiques. Là. Quand ils venaient jouer, nous, on partait au Star, on était petits, on escaladait le mur pour rentrer, regarder les matchs. En tout cas, c'est, ça date, hein, ça date. Je peux dire que ça vaut 45 ans hein, que je suis dans le sport.
Et votre club de cœur?
Moi, je suis de l'USFRAN. J'ai été le président des supporters de l'USFRAN, ça fait bientôt 30 ans. Actuellement, nous sommes en 2-3. Mais ça n'empêche pas que je dise que je suis de l'USFRAN. Hein. Je suis de l'USFRAN. C'est mon club de cœur. Mais maintenant, en voulant venir au destiné de l'INC, je suis obligé maintenant tous les clubs, je les prends sur le même pied d'égalité.
Il n'y a plus de préférence.
On n'a plus de préférence.
Votre programme, faisons de nos stades une source de motivation pour donc, les sportifs. Si Ousseni Tougma est élu président de l'UMC au soir du 17 juillet, qu'est-ce qui va changer concrètement?
Je souhaite que au soir du 17, je sois élu et nous allons faire beaucoup de changements à l'UMC. Premièrement, vous savez que nos grandeurs sont vides quand il y a les matchs. Nous allons travailler à ce que les gens reviennent au stade. Deux, les gens n'ont pas envie de payer l'argent pour rentrer au stade. Ça, c'est un vrai casse-tête, alors que les joueurs vivent de ça. Normalement, la fédération doit beaucoup insister, les ligues, les fédérations doivent insister sur ça pour que les gens payent obligatoirement, n'importe quelle personne doit payer pour pouvoir rentrer au stade. La diaspora, nous allons travailler là-bas. Vous voyez qu'actuellement aussi, tout le monde sait ce que les pays travaillent. Il y a le Covid qui est venu, les djihadistes. Dans ces cas de figure, l'État faisait beaucoup pour nous, pour les déplacements. On ne dit pas de ne plus faire pour nous, mais nous aussi, au moins, on doit mettre la main dans la pâte pour que, au moins, l'État aussi puisse respirer un peu. Parce qu'il faut que nous aussi, on cherche des moyens pour remplir nos caisses. Uniquement la vente même des cartes peut faire vivre, bien sûr. La carte la moins chère, nous allons sur la base des 1000 francs. Si au moins 2 millions de Burkinabés payent les cartes des 1000 francs, vous voyez ce que ça fait. Ça même, nous-mêmes, on peut même enlever de là même aider l'équipe nationale. Nous pouvons ouvrir des boutiques pour vendre des gargiers, tout ça c'est possible.
Alors Ousseni Tougma, c'est vrai, la carte de supporters, ce n'est pas un projet actuel, c'est un projet qui avait été pensé il y a longtemps par l'actuel bureau. Finalement, ça n'a pas pris. Vous concrètement, comment vous comptez vous y prendre pour que ça puisse prendre, pour que chaque supporter aujourd'hui se dise que je dois prendre ma carte de supporter à partir de 1000 francs CFA?
Si je suis élu au soir du 17, nous allons voir même si nous pouvons avoir une audience avec le président du FASO, le premier étalon. Lui, il serait le premier souscripteur. Du moment que le président du FASO est le premier souscripteur, si le président du FASO a souscrit, vous êtes obligé de souscrire.
Commençant par le reste du gouvernement.
Le reste du gouvernement, l'Assemblée et maintenant les populations.
L'autre aspect, c'est peut-être la mobilisation au sein des supporters. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment est venu de mettre en place des points focaux? Parce que c'est vrai, l'UNCE travaille souvent, mais d'aucuns estiment que l'Union nationale de supporters des étalons ne s'occupe spécifiquement que du football.
Moi, je pense que peut-être ce sont nos adversaires qui sont en train de parler de cela. En cyclisme, en boxe, en athlétisme, Yves Fabrice Zongo, nous, on est allé l'accueillir. Toutes les disciplines confondues là, nous sommes. Chaque fois, s'il y a quelque chose seulement. Dans notre programme-là, nous allons faire des points focaux dans chaque fédération sportive pour que s'il y a quelque chose, ils nous mettent au courant. Et nous aussi, on va faire ce qu'on peut. En tout cas, aucune discipline ne sera oubliée. Nous allons travailler avec tout le monde. Les cinq axes qu'on a dit là, nous allons essayer de tout faire pour aller au terme de ce qu'on veut faire, pour que vraiment ça marche.
Vous pourriez avoir comme principal challenger Soumaïla Ilboudo, qui a également tenu une conférence de presse la semaine passée. Déjà, quelles sont vos relations avec votre principal challenger pour ces élections?
Sans vous mentir, je ne le connais pas. De vue même, je ne le connais pas. On ne s'est jamais rencontré.
Et physiquement, vous ne le connaissez pas?
Je ne le connais pas.
Vous n'avez pas cherché à le connaître lorsque vous avez appris qu'il va être candidat?
Non, ben, normalement, c'est lui qui devait chercher à me connaître. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Le président sortant et son bureau a décidé de me passer le relais. Normalement, il devait me rencontrer pour me dire ce qu'il... Vraiment, en tout cas, s'il avait cherché à me rencontrer, moi, j'allais le rencontrer sans problème.
C'était l'invité de la rédaction.